France Culture, avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
Cette année, cela fait 50 ans qu'a paru L'Utopie ou la mort, le best-seller de René Dumont, ce livre précurseur qui alertait sur la situation écologique. Et l'an prochain, en 2024, cela fera 50 ans qu'il ouvrait la voie à l'écologie politique en devenant le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Que reste-t-il de René Dumont plus de 22 ans après sa mort ? Comment hériter de sa pensée, mais aussi peut-être avant tout de son action, ou plutôt de ses modes d'action ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, à cinquième volet de cette série « Avoir raison » avec René Dumont. Et pour parler des héritages de René Dumont, aujourd'hui en studio, Marine Tondelier, bonjour.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Cécile Blatrix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sciences politiques, mais à l'INA, enfin, ou à l'agro-paritech, comme on dit maintenant, anciennement notamment l'Institut National d'Agronomie, où René Dumont avait sa chaire. Et puis Myriam Makiewicz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice administrative, c'est ça, de
technique,
d'une association, d'une ONG qui s'appelle Agro et Vétérinaires sans frontières et qui s'inscrit dans le droit fil des méthodes de René Dumont. Donc on va parler de son héritage politique, de son héritage en termes de méthode et puis de son héritage scientifique, un peu trois dimensions dans cette dernière émission qui lui est consacrée. On va essayer de comprendre comment on peut avoir raison avec, peut-être aussi contre René Dumont, parce que d'une certaine façon, avoir raison contre René Dumont, ce serait une belle manière d'hériter de René Dumont, tant il a su aussi, peut-être à certains moments, penser contre lui-même, Marine Tondelier.
Exactement. Exactement. Alors, c'est vrai que pour nous, René Dumont, c'est une figure extrêmement attachante. C'est quelqu'un qu'on a toujours dans un coin de notre tête, parce que des ancêtres, des figures de la pensée écolo, il y en a beaucoup, mais c'est celle peut-être qui est la plus connue, y compris par les jeunes, parce qu'il y a cette image du verre d'eau. Alors, moi, j'ai toujours trouvé ça très émouvant, parce que ce verre d'eau, à la fois, c'est rare quand même, les gens qui, plus de 50 ans après, ont encore cette image gravée dans la mémoire collective, et en même temps, c'est extrêmement réducteur de tout ce qu'il a pu faire, ça peut être peut-être invisibiliser tout le reste. Mais moi, je le trouve à la fois vintage, ce René Dumont, il a un côté comme ça, vintage.
Le verre d'eau et le pull rouge.
Attachant le pull rouge, et puis même, je relisais pour préparer ces émissions des portraits de lui, en 74, la veille de la présidentielle, il a son portrait dans Paris Match. Et la légende de la photo, il est en train de faire, je sais pas si c'est du qigong ou du yoga dans un parc public. Et la légende, c'est, on a pollué nos chiens, ils n'aboient plus contre les autos. Et c'est ça qu'il regrette cette année-là. Donc il y a un truc vintage, mais en même temps, des vérités qui restent. Puis il a aussi quand même un sacré côté punk, au sens contestataire du terme. J'écoutais aussi des portraits qui ont été faits de lui, où en 1929, pardon, il va en Indochine, parce qu'il prépare son livre, vous savez, sur la culture du riz dans le delta du Tonkin. Et il est promené du coup par l'ambassadeur colonial en calèche. Et en traversant les villages, cet ambassadeur trouve que ça va pas assez vite. Et donc il frappe avec sa cravache les femmes et les enfants qui croisent. Et René Dumont raconte que entre le premier village et le deuxième, il voit un lac, il prend cette cravache, il la balance dans le lac. Et puis il y a aussi plusieurs épisodes comme ça où au Cameroun, il fait un discours devant le Conseil d'État, les parlementaires, le gouvernement, le président de la République, et que tout le monde appelle l'ambassadeur qui lui-même fait un télégramme affolé en disant « mais c'est un universitaire, c'est un fonctionnaire français, il vient dire des choses complètement subversives, que fait-on ?» Donc il avait ce côté un peu décalé, mais sur des sujets qui sont encore très parlants aujourd'hui, la famine, la guerre, évidemment, l'oppression, le tiers-monde, c'est quelqu'un qui nous nourrit encore beaucoup, voilà.
Avant d'approfondir cette question de l'héritage politique, Cécile Blatrix, Marine Tondelier vient de faire référence à tout un tas de situations, d'anecdotes qui sont plus ou moins connues. Le verre d'eau étant effectivement ce clip de la campagne présidentielle. Enfin, c'était pas un clip, c'était une allocution dans la campagne officielle de 1974, la plus connue de toutes. Mais Mais vous qui vous occupez à travers ce musée du vivant, notamment de faire vivre, on va y revenir plus tard, la mémoire de René Dumont, quelle idée avez-vous de cette mémoire collective qui existe encore aujourd'hui et à travers les générations? On vient de le voir, parce que Marine Tondelier n'était pas née en 1974, Cécile Blatrix.
Oui, alors il faut préciser d'abord que donc le musée du vivant, ça fait un ensemble avec ce qu'on appelle le CIR, le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'écologie, puisque précisément et dans la droite ligne de l'approche inter- ou transdisciplinaire de René Dumont, on essaie de combiner l'écologie scientifique, écologie politique, histoire bien sûr, sciences politiques pour travailler sur ces fonds et les valoriser. Moi j'aime assez cette manière d'évoquer René Dumont comme un personnage, une figure à la fois vintage et punk. Ce qui me semble intéressant dans l'héritage et cette mémoire, cette image gravée dans la mémoire collective, comme vous l'avez dit, de ce clip de campagne présidentielle en 1974, c'est qu'il y a vraiment de la transmission. Et qu'y compris au sein de nos élèves et de nos étudiants de master, cette image, elle est absolument identifiée. Moi, j'y contribue, mais je suis loin d'être la seule. Elle marche encore. On la montre, on l'utilise aussi dans nos enseignements. Et le verre d'eau et le pull rouge peut être effectivement un peu réducteur, mais il faut écouter l'ensemble du propos qui va avec. D'ailleurs, il y a toute une série, mais cette séquence-ci, ce qui est assez frappant, c'est que la réaction la plus commune des étudiants quand on leur montre ce clip, c'est quand même une forme de stupeur qui fait écho à ce que disait Christophe Bonneuil, à savoir, mais c'était il y a 50 ans, et qu'est-ce qu'on a fait depuis ?
Christophe Bonneuil avant-hier dans le troisième volet de la série.
Mercredi, oui.
Myriam Makiewicz, comment vous percevez cette mémoire collective aujourd'hui de René Dumont ?
Je pense, pour faire écho à ce que disait Marine Tondelier, je pense que René Dumont, c'était, comme on l'a dit, et ce qui a été dit aussi au cours des derniers épisodes, un agronome du monde, un citoyen du monde, qui a voulu vraiment se baser un peu sur... On parle d'un agronome empirique, c'est-à-dire se baser sur les savoirs locaux, les savoirs paysans. Quand il était invité, puisqu'il a été invité par beaucoup de chefs d'État, en fait, suite aux indépendances, puisqu'on sait qu'il a été profondément... anti-colonialiste. Et quand il était invité par les chefs d'État, très vite, lui, il se retrouvait dans les rizières, dans les champs. Il voulait aller constater quelles étaient les pratiques paysannes. Et je pense que pour nous, en tant que ONG agronome et vétérinaire sans frontières, c'est une vraie filiation dans le sens où on pense que pour de l'agroécologie, il faut vraiment se baser sur les savoirs paysans qui peuvent être combinés à une approche scientifique, mais qu'il est très important de pouvoir les écouter, de prendre en compte leurs pratiques. Et c'est pas seulement des pratiques techniques, mais elles s'inscrivent dans un contexte social et un contexte culturel. Et René Dumont était aussi très attaché à cela. Il n'était pas seulement un agronome technique, mais il voulait comprendre un petit peu les structures sociales, les codes socioculturels qui faisaient qu'un paysan allait pouvoir repiquer du riz ou privilégier une association de culture versus une culture pure, comme on dit. Donc en fait, c'était vraiment ce regard et cet attachement profond en fait à la culture paysanne qui, je pense, nous marque dans ce personnage et fait que on se considère un peu comme entre autres ses héritiers parmi tant d'autres.
Alors revenons au verre d'eau, plutôt revenons à 1974, au-delà du verre d'eau, c'est-à-dire non pas simplement le message qu'il va essayer d'adresser le plus largement possible à la population française, parce que c'est aussi cela que permet une campagne présidentielle, mais ce geste fondateur, c'est pas seulement le geste du verre d'eau, c'est le geste fondateur d'avoir un candidat écologiste à l'élection présidentielle. C'est pas rien en fait, 50 ans, bientôt 50 ans après. Il apparaît que René Dumont a ouvert la voie et a ouvert une page nouvelle pour un courant politique qui jusque-là n'occupait pas la place qu'il a aujourd'hui. Alors certes, ses résultats en 1974 sont assez modestes.
Alors Marine que depuis... Non mais c'est vrai que c'est la Madeleine de Proust un peu pour nous en plus, c'est que la présidentielle c'est pas notre point fort dans la vie, aussi parce que dans ce qu'on raconte on n'est pas présidentialiste et on conteste la 5e République, donc c'est sûr que c'est moins pratique, mais il commet l'exploit, parce que chez les écologistes on fait toujours tout dans le bon sens, d'être candidat écologiste à la présidentielle avant la création du mouvement politique écologiste. L'écologie
Mitterrand a fait la même chose en 1965, en fait le Parti Socialiste n'existe pas, et ils ont tous les deux compris en fait fait, quelle était la logique forte de ces institutions, qu'on les aime ou pas.
C'est ça. Alors, à l'époque, il y a le mouvement anti-nucléaire, il y a les Amis de la Terre qui sont le grand partenaire de sa campagne. Il lance cette campagne sur sa péniche après que trois petits jeunes soient venus chercher en voiture. Il dit « Ok, on y va ». Et c'est assez symbolique du truc écolo, en fait. Et moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est qu'au quotidien, je rencontre encore des vieux adhérents des Verts qui sont là depuis le début et qui disent « Mais j'étais même là avant les Verts parce que j'ai fait la campagne de René Dumont ». Et c'est toujours des moments assez... émouvant, notamment quand j'étais dans le Lot-et-Garonne, où vous savez, je me suis fait poursuivre par des agriculteurs, c'était un grand moment, et on n'arrêtait pas de me parler d'un Claude Ménager, je dis mais qui est ce Claude Ménager? On me dit mais c'est l'ancêtre des Verts du Lot-et-Garonne, mais là il peut pas venir, il est trop vieux, il a 92 ans. Et puis quand j'arrive à la gare d'Agen au bout de mes 48 heures de cavale, parce que j'étais poursuivie donc par la coordination rurale, les syndicats de l'extrême droite là-bas, et on me dit Claude arrive, et il arrive avec ça en marchant lentement, il me dit bah je pouvais pas venir, mais quand j'ai vu dans la presse tout ce qui s'était arrivé, je me suis dit il faut que je la rencontre, et on prend un verre dans la gare, il me donne un verre d'eau en me disant ceci est mon verre d'eau, il me refait la scène de René Dumont et il dit bah tu vois René, on s'est beaucoup moqué de lui à l'époque, mais il avait raison. Et donc il a ce côté c'est avoir raison avec René Dumont, quoi. C'est vraiment ça. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les écolos ont été habitués sur l'eau, sur plein de sujets, à avoir raison seul, à être moqué, à être critiqué, à être marginalisé, à être mis de côté en disant oui, merci René, on a compris. Et puis 50 ans après, on parle que de sécheresse. Et d'ailleurs, c'est la double peine parce que maintenant les gens viennent nous voir en disant bon bah c'est bon, vous aviez raison. Alors maintenant, puisque vous êtes si malin, on fait comment? Et donc, après nous avoir pas écoutés pendant 50 ans, on nous fait ça. Et moi, j'explique souvent, d'ailleurs, voilà, prenez cette scène du verre d'eau. On l'a dit pendant 50 ans, on nous a pas écoutés. Et maintenant, on explique que c'est de notre faute. Et donc, j'explique souvent aux agriculteurs en colère, qui croient que leur problème dans la vie, c'est les écolos, qui peuvent enlever tous les écologistes de France et même du monde. Ils auront encore un problème avec l'eau. C'est pas le messager, le problème, mais le destinataire. Après, ce dont on pourra sans doute parler ce matin aussi, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et notamment, le fait que c'était avoir raison avec René Dumont, mais c'était un peu avoir raison tout seul quand même. C'est pas quelqu'un qui a cherché à fédérer, à organiser. C'était pas sa valeur ajoutée. Et c'est pas grave d'ailleurs. Moi, j'ai pas de valeur ajoutée en agronomie, par exemple. Je ne prétends pas en avoir. Chacun dans son rôle. Mais cet héritage dont on parlera peut-être, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire nous maintenant pour que cette pensée, ce soit pas juste René Dumont avec un verre d'eau, pas juste une campagne présidentielle non gagnante, mais comment on porte à notre manière aussi son héritage, comment on le prolonge et comment on essaye de l'amener en fait au pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il avait dit et surtout prédit.
Cécile Blatrix, c'est vrai que c'est une drôle de mise en orbite pour l'écologie politique, singulière à tous les sens du terme, parce que c'est pas un homme de collectif, d'organisation du collectif, c'est sa candidature. Alors ça colle bien avec cette élection là, mais néanmoins ça aura permis une sorte d'étincelle et par la suite la création de structures partisanes, etc. Quel regard vous portez, vous qui êtes politiste, sur cet élément déclencheur au fond?
Je pense que ce qui est extrêmement intéressant dans ce personnage, c'est sa capacité à articuler un ensemble d'enjeux et à les incarner, y compris dans la manière dont il articule différents positionnements en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, et il investit le jeu politique. Alors effectivement, 10 ans avant la création du parti, il ouvre la voie, comme vous l'avez dit. Ça va avoir des effets quand même assez immédiats. Il y a un peu trois dimensions. Il y a à la fois le côté, c'est un nouvel acteur qui va finir par s'imposer dans le jeu politique en faisant l'objet de toutes sortes de stratégies classiques quand on a la création d'un nouveau parti politique pour essayer de l'empêcher d'entrer dans le jeu, en le disqualifiant, en développant toutes sortes de techniques qui ont été bien étudiées. Il y a aussi une forme d'autonomisation de l'écologie au sens environnement comme problème public qui va être adressé par une politique publique dédiée, ministère de l'Environnement créé en 1971. Et puis, à la même époque, un peu après, on va avoir l'autonomisation de l'écologie scientifique, l'écologie comme science. Et ça peut se comprendre aussi largement comme une réaction à l'entrée en politique de l'écologie. C'est dans les années 80 que le terme écologue est inventé justement pour mieux se démarquer du militant, de l'activiste, perçu plus ou moins positivement par les scientifiques. Mais même s'il y a ces trois dimensions, elles sont intégrées, René Dumont, il les rassemble.
Il rassemble toujours cette figure singulière. On comprend mieux en écoutant à nouveau Jean-Paul Besset pourquoi René Dumont était parfois un peu seul.
France Culture, avoir raison avec René Dumont, par Sylvain Bourmeau.
René Dumont aurait pu faire une école. Il y avait beaucoup de jeunes agronomes qui le suivaient, en particulier dans le tiers-monde. Beaucoup de gens attentifs à son parcours et à ce qu'il disait, mais il n'a jamais voulu formaliser ça parce que ça, il supportait pas. Il supportait pas d'avoir des fans, un fan club. Mais son aboutissement, c'était le changement de regard sur le monde, le changement de civilisation. Il serait parfaitement en phase aujourd'hui avec le discours écologiste, parfaitement en phase. Tout ce qui l'animait dans la vie, tout ce qui le propulsait en avant, c'était d'aller voir les choses sur le terrain et d'affronter la réalité.
Est-ce que lanceur d'alerte, finalement, c'est un qualificatif qui
pourrait lui convenir ? Je pense que c'est un qualificatif qui lui convient très bien, mais j'y rajouterais également un thérapeute. Il avançait des solutions. Il ne faisait pas que dénoncer. Ça, il savait y faire, il savait le mettre en scène, mais en même temps, il avançait des solutions.
Myriam Makiewicz, aller voir les choses sur le terrain, rappelle Jean-Paul Besset. C'est de cette manière-là dont vous héritez, vous, à Agro et Vétérinaires sans frontières, de René Dumont ?
Oui, alors agronome et vétérinaire sans frontières, effectivement, on travaille en prenant en connaissance les contextes. Et je pense que je voudrais revenir juste sur un point, c'est aussi le thème de la lutte. Enfin, une de ses ambitions, c'était la lutte contre la faim. Il était vraiment très préoccupé.
C'était la grande cause pour lui.
C'était sa cause.
La plupart de sa vie.
Sa cause, lutter contre la faim. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'ONG, notre mission, c'est de lutter contre l'insécurité alimentaire et aussi de permettre aux petits paysans du Sud, justement, d'avoir les moyens de produire de façon durable. Donc, sans détruire les sols, sans polluer l'eau, en gérant durablement les ressources et aussi en ayant accès à des prix rémunérateurs. Donc, je pense que la lutte, enfin, poursuivre son combat, c'est aussi dire que l'agriculture paysanne, elle a toute sa place. L'agriculture paysanne et écologique. Et comme ça a été dit, peut-être qu'à un moment, il était assez seul, mais l'objectif, c'est bien de pouvoir donner aux paysans l'opportunité d'être en collectif, de défendre leur rôle et leur reconnaissance, le fait qu'ils soient reconnus dans la société. Et pour nous, c'est vraiment très important. Et cette question, bien sûr, de la lutte contre l'insécurité alimentaire, elle est cruciale. En fait, aujourd'hui, il y a encore 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et le grand paradoxe, c'est que trois quarts de ces personnes sont des paysans et des paysannes. Donc c'est de faire en sorte que cette agriculture puisse être vraiment vivrière. Et c'était un des grands thèmes de René Dumont, c'est-à-dire qu'il favorisait vraiment l'agriculture qui pouvait nourrir les populations versus une agriculture industrialisée, vraiment tournée plutôt vers des marchés d'export, etc. Donc là aussi, il a été précurseur, puisque aujourd'hui c'est encore un sujet crucial et qui nous anime.
Vous soulignez tout à l'heure l'importance qu'il accordait à l'attention aux techniques culturales en fait locales, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour lui de venir imposer une agriculture scientifique qui serait pensée en Europe occidentale, mais bien de regarder comment optimiser les pratiques locales avec un savoir scientifique qui lui pouvait progresser évidemment. Est-ce que c'est encore ce que vous essayez de faire sur le terrain à travers votre ONG ?
Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie paysanne, c'est vraiment, il s'agit de valoriser les savoirs locaux, les savoirs des paysans, et de les combiner parfois avec des approches scientifiques nouvelles, mais d'abord de prendre en compte leur contexte, de placer le paysan et la paysanne dans sa ferme, face à ses contraintes, et il s'agit aussi de les appuyer pour qu'ils puissent négocier des politiques agricoles qui leur soient favorables, donc soit auprès de leurs états, en demandant un accès à la terre, un accès à l'eau. On sait bien que la ressource en eau est très inégalement partagée. Il y a des pays, par exemple, où nous travaillons en Équateur, où on lutte pour que l'eau bénéficie aux petits producteurs andins versus des grandes entreprises horticoles qui s'accaparent la ressource. Donc notre travail, c'est vraiment de à la fois technique et politique, mais de militer et d'appuyer aussi concrètement les paysans pour qu'ils réclament l'accès aux ressources et qu'ils puissent les utiliser durablement. Avec des pratiques agroécologiques. Donc, c'est vrai que René Dumont, on l'a dit, peut-être ne parlait pas directement d'agroécologie, mais il a été un précurseur dans ce sens où il a bien vu que les ressources n'étaient pas infinies et il a préconisé de travailler d'abord sur une agriculture, enfin, en tout cas, peut-être un peu plus tardivement, mais dans les années 70-80, sur une agriculture qui soit durable. Et même s'il n'a pas prononcé le mot d'agroécologie, c'est une agriculture qui va préserver les sols, les forêts, etc. Donc, c'était vraiment pour nous une figure en ce sens très importante.
Cécile Blatrix, c'est une attention évidemment au sol, au caractère durable, à cette dimension agronomique, mais c'est aussi une manière de replacer l'agronomie dans un contexte plus large, qui est un contexte économique, un contexte politique, parce que c'est rappelé à l'instant, les problèmes de faim, en fait, aujourd'hui, se trouvent dans des situations paradoxales où, en fait, c'est davantage les structures économiques, les problèmes d'exportation, d'importation qui les créent davantage que la capacité à produire véritablement de quoi s'alimenter sur place. Et de ce point de vue-là, hériter de René Dumont dans un lieu de formation comme AgroParisTech, c'est aussi toujours garder en mémoire qu'il faut replacer la connaissance scientifique de l'agronomie dans un contexte plus large, qui est celui des sciences humaines et sociales.
Oui, bah absolument. C'est ce que nous nous attachons à faire au sein du département sciences économiques, sociales et de gestion que j'ai l'honneur de présider. Donc on y croit beaucoup, hein, à la nécessité pour affronter les enjeux liés à la crise écologique de penser d'une agronomie éclairée par les sciences sociales. Et puis il y a cette capacité d'analyse critique, de questionnement, de doute, une forme, je pense, de sensibilité à l'injustice, une forme de révolte. Donc il y a aussi dans l'héritage de René Dumont une sensibilité au rapport de domination entre Nord et Sud, mais au sein des nations. Donc c'est tout ça qu'on essaye de tenir ensemble dans la manière dont les sciences sociales contribuent au cursus de l'élève ingénieur aujourd'hui.
Alors une manière de faire, c'est de proposer aux élèves ingénieurs des formations qui sont diverses, mais c'est aussi évidemment de s'occuper, ça c'est l'aspect recherche, de s'occuper d'un fonds René Dumont dont vous avez la responsabilité, cette institution, et qui a été encore assez peu investigué en fait. On l'attend, cette grande recherche sur le parcours de René Dumont.
Oui, alors c'est un fonds qui est très conséquent. Donc le fonds René Dumont résulte d'un don de Charlotte Paquet-Dumont. Et en quelques chiffres, c'est 1000 photos, 4 cartons d'objets personnels, dont plusieurs exemplaires du fameux pull rouge, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. 15 affiches, 2 pièces d'archives, donc documents, rapports, notes, cahiers, etc. Donc ce fonds, il a effectivement déjà été quand même pas mal valorisé en termes d'expo, dont l'exposition...
Il y a une expo en ce moment, voilà, qu'on peut aller voir au Jardin René Dumont, donc à Nogent-sur-Marne, dans le bois de Vincennes.
C'est ça, à la Cité du Développement Durable. C'est une expo d'ailleurs qui avait été réalisée dans le cadre d'un partenariat CIR, Musée du Vivant, Fondation de l'écologie politique, Fondation René Dumont, rédigé par Jean-Paul Besset et Marc Dufumier. Et il faudra éventuellement qu'on mette le lien, si vous le voulez bien, Sylvain Bourmont.
On le fera.
Parce qu'elle est téléchargeable gratuitement. C'est le principe des expos musées du vivant, favoriser au maximum une diffusion. Avec la Ligue de l'enseignement, on travaille beaucoup également. Alors, en termes de recherche, effectivement, beaucoup reste à faire. Et nous sommes en ce moment même en train d'œuvrer en vue de l'accessibilité du fonds René Dumont. Alors, un classement approprié et puis un moteur de recherche et un accès au public qui effectivement était possible mais dans des conditions pas évidentes jusqu'ici. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et votre série d'émissions l'a montré, hein. Il y a beaucoup à faire pour éclairer encore certaines dimensions de la trajectoire de René Dumont. On évoquait cette discussion sur conversion ou pas conversion. Est-ce que le terme est le bon? Comment on documente cette conversion?
La grande question, on a vu finalement le désaccord tout au long de cette série. En gros, entre Hubert Cochet qui pense qu'il a toujours été écologiste et puis Christophe Bonneuil qui pense qu'il s'est converti à un moment donné. En fait, seule une recherche pourra permettre peut-être de trancher cette question, Cécile Blatrix.
Voilà, et donc, très prochainement, je pense que nous allons pouvoir rendre possible une, et puis mener hein, cette thèse. Je caresse l'espoir qu'elle puisse être conduite au sein d'AgroParisTech. Et ce sera à suivre, rendez-vous dans quelques temps.
Marine Tondelier, comment vous héritez de tout ça? Je dis vous, c'est-à-dire en fait le parti politique dont vous êtes la responsable aujourd'hui.
Écoutez, on l'a dit, c'est la structuration d'un mouvement écologiste n'était pas son combat. Il en avait bien d'autres et pour le coup extrêmement important aussi pour nous. Mais il y a une suite à René Dumont, vous la connaissez. C'est un mouvement politique dont on fêtera les 40 ans l'année prochaine. Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts et bientôt quelque chose d'autre puisque nous allons lancer un nouveau mouvement le 14 octobre, je vous annonce cette date en exclusivité.
C'est un scoop, alors.
On lancera le nouveau mouvement qui s'appellera sûrement Les Écologistes. Et évidemment que ça s'inscrira aussi dans sa mémoire. La différence entre l'époque de René Dumont, où on a dit qu'il était quand même un peu seul quand il parlait de ça, c'était assez marginal comme pensée à l'époque dans la société. Aujourd'hui, Bruno Latour, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, expliquait bien que l'écologie, elle est potentiellement majoritaire dans l'état d'esprit des Français, mais que la classe écologique, si elle est potentiellement majoritaire, n'est pas une classe qui est consciente d'elle-même, pas fédérée, pas structurée. Et c'est ça aujourd'hui notre travail, c'est de dire on a une idée qui est potentiellement majoritaire, comment on s'organise, et pas qu'au sein de la sphère politique, avec les associations, avec les scientifiques. Vous le disiez, René Dumont, il était scientifique, et on dit parfois les Verts, la science, c'est pas la même chose. Il se trouve que en fait, il y a beaucoup de scientifiques chez les Verts qui alertent depuis des années, et donc on veut fédérer cette grande famille de l'écologie, et on lancera ce mouvement le 14 octobre, et évidemment, on le fait à notre manière, c'est très démocratique. Il y a 150 jours d'écoute, de cahiers de doléances, de questionnaires en ligne, d'ateliers partout sur le territoire. Il y en a deux ou trois tous les jours, il y a des ateliers en ligne aussi. Il y a plein de choses, ça se passe sur lesécologistes.fr, vous irez voir, et donc rendez-vous le 14 octobre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que René Dumont, il nous accompagne quasiment au quotidien chez les Verts. Quand on se réunit au local, la salle s'appelle Salle René Dumont. Je serai ce week-end au Festival des Idées à la Charité-sur-Loire. Et donc, on va à Nevers. Et à Nevers, il y a une salle René Dumont en centre-ville. C'est le local des Verts de la Nièvre. Et tous les premiers vendredis du mois, ils organisent la Boum à René. Et la Boum à René, c'est quoi? C'est vous apporter, venez comme vous êtes, quoi, vous apportez un truc à manger. Et donc, on partage un repas, on danse. Et évidemment, on parle un petit peu de politique. Vous voyez que René Dumont est toujours là. Et ça se prolonge aujourd'hui parce qu'on est en train de lancer une campagne participative sur l'eau qui est le sujet dont on va beaucoup parler cet été, dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Et pour lancer cette campagne participative, on a fait des petits clips vidéo dont un dessin animé un peu qui reprend René Dumont, qui lève son verre. En fait, son verre est vide parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, on continue à jouer avec ce symbole auquel beaucoup d'écolos sont attachés. Et donc, le concept de cette campagne participative, c'est que... Il y a déjà 150 personnes qui ont proposé en fait des idées de campagne inspirées par cette vidéo de René Dumont. Il y a la pub Evian aussi, mais les bébés n'ont plus d'eau. Il y a Jean-Claude Van Damme qui n'a plus d'eau. Enfin, il y a tous ces symboles autour de l'eau. L'idée, c'est que chacun propose la campagne qu'il aurait voulu monter. Et puis, on en sélectionnera une avec un jury pour l'organiser cet été. Donc, vous voyez, René Dumont est toujours là et nous aussi.
Merci Marine Tondelier, merci Cécile Blatrix et Myriam Makiewicz pour cette dernière émission d'avoir raison avec René Dumont. C'était une série conçue par Sylvain Bourmeau, attaché de production Juliette Mouelic et Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes et à la réalisation de toute la série Olivier Bétard.